partager ensemble quelques versets dans l'Écriture et je vous inviterai à faire une lecture dans le livre d'Ésaïe, chercher Ésaïe, chapitre 12. On va le lire en entier, il n'est pas très long ce chapitre. Et à l'écran, on n'a mis que quelques versets, verset 2, verset 3, mais on va le lire tout en entier, il n'y a que 6 versets. Ésaïe chapitre 12. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut, et vous direz dans ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Poussez des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Amen. Je ne sais pas si vous êtes familier du livre d'Ésaïe, mais si vous ne l'étiez pas, je ne suis pas sûr que vous auriez imaginé qu'il pouvait y avoir un tel psaume, un tel cantique, un tel chant dans le livre d'Ésaïe, parce que bien souvent, il est question de paroles prophétiques, de paroles de culpabilité, de condamnation, parce que le peuple a besoin de se réveiller. Et puis là, un chant au milieu de ces prophéties, un chant exaltant, sachant que dans la première partie du livre d'Ésaïe, on est tourné vers le peuple d'Israël, et dès le chapitre 40, on bascule dans la vision messianique et prophétique, et ça devient extraordinaire de contempler et de voir ce que Ésaïe a saisi, ce que Ésaïe a compris. On va revenir sur cette notion-là de puiser avec joie, puiser avec joie aux sources du salut, aller vers le bon puits pour puiser ce qui est rafraîchissant. Peut-être que nous pourrions nous poser chaque jour la question, chaque jour en se levant le matin, on pourrait se poser la question, et je ne sais pas si vous vous la posez d'ailleurs cette question, mais je me la pose quasiment tous les jours, ouais, je ne pense pas ne pas me la poser. Mais pour pas me tromper, je vous dirais, j'en suis quasiment sûr que je le pense tous les jours, mais ça va tellement vite. Comment sera ce jour ? Tous les matins en se réveillant. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Comment ça va être cette journée ? Et puis si on se pose cette question dès le matin, je pense que raisonnablement, il faut également se la poser le soir. Alors, comment ça a été ? Comment ça sera ? Et comment ça a été ? Je pense que c'est bien de se poser la question, parce qu'ainsi les jours ne passe pas et ne file pas trop rapidement, et puis on peut se concentrer sur chaque jour. On a un petit peu de mal à faire cela aujourd'hui, il faut le reconnaître, parce que vous avez remarqué qu'on vit tous à crédit, on vit tous en regardant plus loin, hein. On vit tous en regardant l'avenir. Je suis persuadé que vous savez déjà ce que vous allez faire, peut-être à Noël, peut-être même au printemps. Vous avez déjà calé vos vacances, vos prochaines vacances, peut-être même l'été prochain, peut-être même dans 4 ans quand vous serez à la retraite, ou dans 5 ans, ou dans bref. On a toujours le regard porté loin devant. C'est peut-être pour ça que le temps passe vite, entre parenthèses, et on oublie de vivre le moment présent. Alors on ne va pas faire de la philo, hein, on va laisser le carpe diem où il doit être, mais peut-être que ce serait intéressant de se poser la question tous les matins, puisque je suis croyant, qu'est-ce que je vais faire de cette journée ? Et pour vous aider, évidemment, à bien réfléchir à cela, alors vous avez une exhortation qui est dite dans Ésaïe, quand il rappelle ceci, « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. » Avez-vous, chaque matin, eu envie de louer Dieu ? Avez-vous été rempli de bonheur, chaque jour, le soir, quand vous vous couchez ? Est-ce que vous pouvez dire « ça a été une belle journée ?» Ça a été une belle journée. Peut-être que vous vous direz, ça a été une journée maussade, ça a été une journée ratée, ça n'a pas été une bonne journée. Non, elle n'a pas répondu à mes attentes. Je me couche et je suis blasé, je suis pas très heureux parce que ça n'a pas bien fonctionné, ça n'a pas bien tourné. C'est un petit peu le lot de chacun, certainement. des jours que l'on dirait avec et des jours que l'on dirait sans. Mais je crois que tous les jours, on peut ressentir les effets bénissants d'aller puiser avec joie aux sources du salut. Tous les jours, on peut vivre de telles expériences. Et vous savez, et on va le voir ensemble, vous savez qu'au bord d'un puits, près d'un puits, les rencontres vont se succéder. Et il y a eu de belles rencontres au bord de tout un tas de puits, de tout un tas de sources, là où de l'eau jaillissait, là où on allait chercher de l'eau. Et il est évident que si ce matin nous décidons d'aller puiser aux sources du salut, nous rencontrerons celui qui peut désaltérer notre âme, celui qui peut faire du bien à notre cœur et celui qui peut nous encourager et nous bénir. Je ne sais pas si vous voyez assez bien la photo, mais c'est un vieux puits dans une région assez désertique. Et les premières rencontres que l'on va faire, on va aller les faire dans des endroits un peu comme ça. Quand on lit ces premiers pas du peuple de Dieu, en commençant par Abraham, Isaac, Jacob, dans le pays d'Israël, le pays était aride comme cela. Il ne faut pas imaginer Israël verdoyant, avec beaucoup d'orangeries ou, allez savoir, de palmeraies. On ne cultivait pas aussi bien à cette époque-là, le rendu n'était pas aussi efficace, mais les régions étaient plutôt désertiques. Et quand Dieu va appeler Abraham, il va lui demander de quitter son pays natal pour aller rejoindre un paysage très désertique qui se trouve quasiment vers le sud de la Palestine. Quand vous regardez une carte aujourd'hui, on n'est pas loin du désert du Néguev, on est très bas. Et évidemment, c'est très aride à cet endroit-là. Et je lis dans le livre de la Genèse, un récit, dans le livre de la Genèse, au chapitre 21, on va le lire ensemble, s'il vous plaît. Et à partir du verset 1er, Genèse, chapitre 21, verset 1er, c'est l'expérience d'une femme, Agar, qui, au bord d'un puits, va trouver la paix. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Verset 8. L'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin. Le jour où Isaac fut sevré, Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant de ta servante, accorde à Sarah ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla, s'égara dans le désert de Beersheba, et quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous des arbrisseaux, et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura, et Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar, et lui dit, « Qu'as-tu, Agar ? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau, et elle alla remplir d'eau l'outre, et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant, qui grandit, habita dans le désert, devint tireur d'arc, il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Amen. Vous connaissez certainement cette histoire qui est liée à un temps de faiblesse, un temps de, pourrait dire, de manque de foi chez Abraham, qui pendant des années a attendu la promesse de Dieu, désirant avoir un enfant, mais l'enfant ne vient pas. Le temps passe, les années passent, ça va mettre très mal à l'aise également son épouse, Sarah, qui finira par donner la servante, c'est-à-dire Agar, comme épouse à son mari, en espérant qu'elle aurait d'elle un enfant. Un enfant va naître, c'est le fameux Ismaël. Et puis, tout aurait pu se terminer comme cela, sauf que ce n'était pas la promesse. Sauf que ce n'était pas ce que Dieu avait prévu, et Dieu, en son temps, va donner à Sarah un enfant, Isaac, né. Vous avez vu le contexte, c'est assez réjouissant. Mais très rapidement, on comprend que Agar va subir une forme d'injustice, voire même de maltraitance. Agar n'a pas été irréprochable, bien évidemment, qui pourrait être irréprochable. Et à un moment donné, quand des années plus tôt, elle s'était vue enceinte, alors que sa patronne, pendant des années, avait espéré l'être, quand elle s'est vue enceinte, elle a regardé forcément Sarah avec mépris. Et ça s'était déjà mal passé, à ce moment-là, vraiment mal passé. Et le fait est que Agar avait dû s'enfuir, parce que Sarah l'a maltraitée. Donc il y a eu une forme de maltraitance, et Dieu va intercepter cet Agar qui s'en va dans le désert en disant « Mais que fais-tu? Où vas-tu? Rentre à la maison et humilie-toi. » Ce qu'elle fera, de bonne grâce, malgré tout, elle le fera. Ça, ce sont les leçons de la vie. L'orgueil n'amène que la ruine, la chute, la vanité, ça ne mène nulle part. Certainement pas dans des expériences bénies. Et elle a vécu cela, alors le temps a passé. Elle a certainement mis de l'eau dans son vin. Elle a compris quelle était sa place, encore plus quand l'enfant Isaac va naître, évidemment. D'un coup, de premier héritier, son fils devient deuxième héritier. Et comme disait quelqu'un, il semblerait que ce fût un héritage en indivision. On ne pouvait pas le diviser, cet héritage. Il devait s'en aller totalement vers Isaac et non plus vers Ismaël. Et puis, il y a cette fameuse histoire où Dieu va sauver la vie d'Agar. Agar a été chassée, d'une certaine manière, même si Abraham n'était pas satisfait de cela, il va devoir le faire. Et elle va s'en aller dans le désert. J'ai trouvé une image qui reflète un petit peu ce qu'elle a dû vivre à ce moment-là. Je pense qu'on aura du mal à comprendre ce qui va se passer. Mais après avoir bu toute l'eau de cette petite réserve, de cette gourde, de cette outre qu'on lui avait donnée, elle s'est perdue dans le désert. Difficile de ne pas se perdre dans le désert. Et à un moment donné, elle comprend que son fils, qui n'est qu'un ado, son fils va mourir. Il perd ses forces, elle aussi. Elle perd les siennes, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle le jette dans un coin, elle le dépose à l'ombre de quelques arbrisseaux, et puis elle s'en va un peu plus loin. Non pas qu'elle abandonne son fils, mais c'est trop cruel de voir son enfant mourir de soif, là sous ses yeux. Elle ne supporte pas la vue de cette agonie. Donc elle s'en va un peu plus loin, et là elle va gémir, et là elle va crier à Dieu. C'est une femme qui est anéantie, brisée, et totalement impuissante. N'est-il pas arrivé quelquefois que dans certaines circonstances, on se soit trouvé exactement comme cela, anéanti, brisé, impuissant, incapable de changer les choses, incapable de faire en sorte que les choses soient différentes, totalement impossible de l'expérimenter. Alors, cette femme, elle a fait ce qu'elle pouvait faire, mais il y a une leçon à retirer de cela, c'est qu'elle pleure, elle gémit, elle se plaint, et Dieu entend la voix. Dieu entend la voix de l'enfant, d'ailleurs, nous est-il précisé. Mais je ne peux pas imaginer que Dieu n'a pas entendu la voix d'Agar également, et Dieu vient vers elle. Je vous ferai remarquer que Dieu ne vient jamais à nous les mains vides. Et quand Dieu vient vers Agar, il vient la rassurer. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Ça paraît assez incroyable que Dieu lui demande qu'est-ce qui se passe alors qu'il le sait. Vous êtes d'accord avec moi, il le sait. Mais est-ce que ce n'est pas bien d'ailleurs aujourd'hui? Et depuis quelques semaines, on entend beaucoup parler de la parole qui se libère. La parole se libère. Les gens disent, mais de tout temps, quand on a retenu sa parole et ses douleurs et ses peines, on n'a jamais progressé. Le roi David avait expérimenté cela. Il dira ceci, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Ma vigueur n'était que sécheresse. Ta main s'apesantissait sur moi. Alors j'ai avoué mes transgressions à l'Éternel. » Et vous savez quoi? Dieu a effacé même la peine de ses fautes et de ses péchés. Donc, voilà ce que Dieu est capable de faire, et Agar va l'expérimenter. Elle expose à Dieu sa douleur, elle expose à Dieu sa peine. Et qu'est-ce qu'avait fait Dieu ? Il est venu avec un puits et des promesses. Je ne sais pas comment cette femme n'a pas trouvé de puits, n'a pas vu de puits, mais bon, toujours est-il que Dieu va lui ouvrir les yeux. Dieu va lui ouvrir les yeux et va lui demander simplement de regarder. Et quand elle va regarder, elle va voir un puits d'eau. En fait, c'était exactement ce qu'il lui fallait. Il lui suffisait d'eau pour donner à boire à son enfant, boire elle-même, et puis pour suivre un peu la route et arriver dans un village, dans un endroit habité. Et on comprend dans la suite de l'histoire qu'au bord de ce puits, Agar a rencontré un Dieu fidèle. Elle qui a subi bien des choses, et elle, malheureusement, elle n'en était pas coupable. Elle a été donnée comme épouse, elle n'a pas choisi. Oui, elle a eu tort de se voir au-dessus de sa patronne. Elle a eu tort de réagir comme ça, mais qui ne fait jamais d'erreur. Et puis après, dans sa fuite, elle a accepté de revenir, elle a accepté de s'humilier, elle a accepté de s'abaisser. Eh bien, à celui qui cherche la paix, Dieu dit qu'il est fidèle et qu'il donne la paix encore aujourd'hui. Alors si vous manquez de paix, allez au bord de ce puits, vous rencontrerez ce Dieu qui est fidèle. Et puis l'histoire continue, et l'enfant Isaac va grandir. Et Isaac va être en âge de se marier, et on va se retrouver dans une autre situation, où là, eh bien, il s'agit pour Abraham d'être rassuré. Qui épousera mon fils Isaac ? Alors on va le lire ensemble dans la Genèse, on va lire plusieurs versets au chapitre 24. Genèse 24, déjà au verset 1er. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, on pense qu'il pourrait très bien s'agir d'Éliézer. On n'en est pas convaincu parce que dans ce texte, il n'est pas nommé, mais j'ai choisi de mettre Éliézer parce que c'était celui qui était né dans sa maison, homme de confiance, son intendant. Donc il se peut que ce soit ce même Éliézer qui ait entendu ces mots, vraisemblablement. Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Verset 10. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les jeunes et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai « Penche ta cruche, je te prie, pour que je boive » et qui répondra « Bois ». Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. » Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au devant d'elle et dit « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit « Bois, mon Seigneur. » Elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et lui donna à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit « Je puiserai aussi de l'eau pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. On va plus loin, verset 27. Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, L'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Verset 56. Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Et enfin, verset 63. Cependant, Isaac était revenu du puits de la Kairoï et il habitait dans le pays du Midi. Un soir, qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. Et voici des chameaux arrivés. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur montra à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Amen. Voilà, je vous ai résumé toute l'histoire. Si vous ne la connaissiez pas, maintenant, elle représente quelque chose pour vous. Alors, la demande d'Abraham, vous avez remarqué, elle est très précise. Il n'y a pas deux solutions. Tu ne prends pas une fille d'ici, tu vas plutôt dans mon pays. Donc, ça signifie, quand vous regardez la carte, on part d'Israël et on remonte plein nord et on s'en va en direction de l'Irak. On fait un long voyage, très long voyage, pour arriver en Mésopotamie, à cette ville où était Nachor, et donc il va entreprendre ce long voyage. Pas de compromis, il faut que ça marche. Eliezer a eu sa réponse, la réponse qu'il attendait. Pourquoi ? Parce que Dieu exauce la foi. Je suis surpris de l'attitude d'Eliezer, surpris dans le bon sens. Je suis assez émerveillé de voir comment cet homme a réagi. Quand, après avoir longtemps voyagé, quand il a pensé, parce qu'il n'avait pas de GPS, mais quand il a pensé qu'il était à peu près certainement arrivé dans l'endroit où il devait se rendre, ben, comme il a une caravane avec lui, il s'arrête près d'un puits en se disant, près du puits, il y a certainement des gens qui vont arriver ce soir pour ouvrir le puits et donner à boire à leur bétail. Donc, c'est un bon endroit pour faire des rencontres. C'est toujours un bon endroit et un endroit choisi par Dieu pour faire de bonnes rencontres, c'est sûr, un puits. Vous puiserez avec joie aux sources du salut. Je reviens sur ce verset. Donc, cet homme va poser des conditions, devrais-je dire des précisions plutôt que des conditions. Et il dit ceci, voilà, je vais me porter près de ce puits, je vais attendre que les gens arrivent, et j'aimerais bien, ce serait drôlement bien, que la première personne qui arrive et à qui je vais lui demander de me donner de l'eau, m'en donne, et qui je demanderai de donner à boire à mes chameaux de face. Soit dit en passant, ce n'est pas une petite chose qu'il demande. Parce que donner à boire à Eliezer passe encore. Mais donner à boire aux chameaux, je pense que quand vous réalisez la tâche qui vous attend, il faut vraiment être consacré pour dire « oui, je vais le faire ». Donc, il ne demande pas une petite chose, il demande quelque chose qui est quand même assez conséquent, quelque chose qui est important. Et vous avez vu le déroulé de l'histoire. Abraham, pour revenir à Abraham, il a quand même pris un risque assez énorme parce que le serviteur, avant de partir, lui dit « Écoute, si je m'en vais dans ton pays et si je rencontre personne, si finalement il n'y a personne qui veut me suivre, si personne ne veut venir épouser quelqu'un qu'il ne connaît pas, comment je fais ?» Et Abraham, très justement, va lui dire « Tu seras dégagé du serment que tu as pris aujourd'hui. » C'est curieux d'imaginer que Dieu ait quand même ouvert la porte en disant « Écoute, si vraiment ça ne marche pas, eh bien, tu feras comme tu veux. » Parce que j'aimerais vous dire qu'avec Dieu, ça marche toujours. Et si vous avez posé une condition en disant « Mais Seigneur, si ça ne marche pas, est-ce que je ne pourrais pas faire autrement ?» Dieu vous dira toujours « Pas de problème, tu pourras faire autrement. » Mais parce qu'il sait que de toute façon, vous n'aurez pas à faire autrement. Parce que quand il promet, ça marche. Faut-il encore avoir la foi, ou tout du moins manifester la foi? Parce que bien des gens ont répondu à cette vérité-là en disant « Je suis désolé, Dieu ne m'a pas exaucé. » Est-ce que vous l'avez demandé avec foi? Parce que quelquefois, on a préféré ne pas aller trop loin dans l'engagement parce que la solution que Dieu nous proposait, elle n'était pas bien. Nous, on en avait une autre qui était meilleure, alors on a traîné les pieds. ben c'est sûr que Dieu nous a laissé faire ce qu'on voulait. Mais quand on est prêt à tout abandonner, aller jusqu'au bout, là on manifeste la foi, hein. On travaille sans filet, on manifeste la foi, et bien Dieu intervient et Dieu agit de cette manière-là. Rebecca, vous l'avez vu, au moment de la rencontre, elle va aller même au-delà des souhaits d'Éliézer, tout du moins au-delà. En tous les cas, elle va précéder la demande d'Éliézer. Versets 19 et 21, on l'a lu ensemble. Non seulement elle va donner à boire à Éliézer, mais quand elle dit « Je vais puiser aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Hein. » Donc vous avez bien compris. Mais vous avez vu, elle va courir. Elle va courir. Courir. Quel empressement, quoi. Un travail gratuit. Hein. Elle ne sera pas payée pour ça. Hein. Tous les cas, oui, elle le sera, mais elle ne le sait pas. Elle le fait parce qu'elle a envie de le faire. Je me dis qu'Éliézer, il était au bord du bon puits, il était près du bon puits, et il est en train de puiser à la bonne source, vous ne croyez pas? Parce qu'en posant quelques questions, il en vient à comprendre, et c'est pour ça qu'il s'est adressé à cette jeune fille, que cette jeune fille est précisément Rebecca, née de Bethuel, fille de Milca, la femme de Nachor, le frère d'Abraham. Il se dit, ce n'est pas possible. Juste celle qui arrive, c'est précisément dans cette famille que je dois aller frapper à la porte. Et puis la suite est assez incroyable. Vous avez vu la remarque d'Éliézer. Éliézer a eu la réponse. Si vous cherchez des réponses, allez puiser aux sources du salut. Là, vous aurez les réponses. Si vous puisez à n'importe quelle autre source, Jérémie dira que ce sont des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Alors vous pouvez y aller tant que vous voulez. Ça ne répondra pas, évidemment, à vos attentes. Mais la foi est toujours honorée, la foi est toujours exaucée, et on le voit encore à ce moment-là, Rebecca acceptera de partir. D'ailleurs, même le père n'est pas très chaud pour la laisser partir aussi rapidement, mais vous avez vu l'empressement du serviteur d'Abraham, « Ne me retardez pas, puisque Dieu a fait réussir mon voyage. » Plaise à Dieu que tous les soirs, vous puissiez vous dire, pour le voyage que vous aurez accompli du matin au soir, « Béni soit Dieu qui m'a fait réussir mon voyage. » qui a fait en sorte que mon voyage soit réussi. Je crois que c'est comme cela que l'on peut bénir et louer l'Éternel. Alors l'histoire continue, parce que Isaac et Rebecca se marièrent, furent heureux et ont eu des enfants. Et ils en ont eu deux. L'un s'appelle Ésaü et l'autre s'appelle Jacob. Alors on va aller sur Jacob. Et Jacob, lui aussi, au bord d'un puits, va trouver son chemin. Ça ne va pas être si facile que cela. Il va quand même trouver son chemin. On va le lire ensemble dans Genèse chapitre 29, verset 1er. Genèse chapitre 29, verset 1er. Vous puiserez avec joie, car Dieu est fidèle, car Dieu exauce la foi. Et troisième point, car Dieu est bon. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda, et voici, il y avait un puits dans les champs, et voici, il y avait à côté trois troupeaux de brebis qui se reposaient. Car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux, et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là, on roulait la pierre de dessous l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit au berger, « Mes frères, d'où êtes-vous ? » Ils répondirent, « Nous sommes de Charan. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nachor ?» Ils répondirent, « Laban, le frère de Rebecca, entre parenthèses, fils de Nachor. » Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur dit, « Est-il en bonne santé ?» Ils répondirent, « Il est en bonne santé. » Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Il dit, « Voici, il est encore grand jour, et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux. » Abreuvez les brebis, puis allez et faites-les paître. Ils répondirent, nous ne le pouvons pas, jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessous l'ouverture du puits et qu'on abreuve les troupeaux. Comme il parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessous l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob embrassa Rachel, il éleva la voix et pleura. Amen. Sacré Jacob. Quand les bergers lui disent « On n'a pas le droit de rouler la pierre », il dit « D'accord, on attend ». Et quand il voit arriver Rachel, là, il dit « Attends, t'inquiète pas, je te roule la pierre tout de suite ». Je ne sais pas comment était la pierre, hein, si elle était lourde, très très lourde, mais bon. Toujours est-il qu'il a fondu devant Rachel, vous avez compris. Hein. Il est tombé fou amoureux, instantanément. Jacob a trouvé son chemin. Mais à cet endroit-là de l'histoire, Jacob, c'est un fuyard égaré. Vous entendez ? C'est un fuyard égaré, presque criminel. Il a volé à son frère son héritage spirituel, il a menti à son père, il a trompé son propre père, bref, il n'est pas fier, il peut ne pas être fier. C'est un fuyard, c'est un égaré qui s'en va, qui d'ailleurs a un contrat sur sa tête, puisque son frère veut le faire mourir. Et il s'en va, et il est parti dans cette direction-là parce que sa propre mère, craignant pour la vie de son fils, lui a dit « Fuis vers mon frère, va vers ton oncle ». Et il s'en est allé, il est arrivé dans cet endroit-là. Lui aussi, vous avez vu, il ne sait pas trop si c'est le bon puits, le bon endroit, la bonne adresse. Alors il pose des questions et on lui fait la même réponse. « Oui, oui, on le connaît bien, ton oncle, on sait qui il est. Eh bien tiens, regarde, il y a sa fille qui arrive. » Exactement comme l'histoire de son père. Hein. « Il y a sa fille qui arrive. » Et là, il ne comprend pas, il dit « Bon, 1, 2, 3 troupeaux, quelques bergers qui sont là, je peux comprendre, mais pourquoi vous vous rassemblez de si bonne heure ?» Et vous comprendrez que c'est un petit peu, certainement, comme dans les administrations, premier arrivé, premier servi. Donc ils se disent « C'est fermé, mais ce n'est pas grave, on y va tôt, et comme ça, au moins, on sera dans les premiers servis. » Alors, ça ne paraît pas logique, vu l'heure à laquelle on se trouve, mais Jacob est là. Il a suivi, cette fois-ci, le conseil de ses parents, parce qu'il a compris que c'était dangereux pour lui. Vous savez, quand on est au bon endroit, Dieu ne tarde jamais bien longtemps avant de donner des signes. Des signes. Et c'est évident qu'on a tous besoin d'entendre la voix de Dieu, c'est évident. À certains moments, on a besoin qu'il nous parle clairement, que les choses soient plus limpides. On a besoin d'être beaucoup plus éclairé, parce que donc de quelques signes qui pourraient nous faire avancer, nous permettre de poursuivre la route. Mais ce n'est pas parce qu'un signe s'accomplit en faveur de Jacob ce jour-là que tout est réglé. Hein, parce qu'il va lui falloir du temps encore. Parce qu'il restera du chemin à parcourir. Il y a un caractère à façonner, il y a un cœur à changer, il y a une volonté à soumettre. Et ce n'est pas évident parce que c'est du bois brut, hein, Jacob. Soit dit en passant, quand il va rouler la pierre, quand il va déplacer la pierre pour faire boire le troupeau de Rachel, vous imaginez que les autres, ça peut provoquer un conflit, hein. Ça peut provoquer une dispute auprès des autres qui viendront plus tard. Est-ce qu'il y aura encore de l'eau ? Est-ce que, bref, ce n'est pas évident, mais c'est un bagarreur, Jacob. C'est un bagarreur jusqu'à ce que Dieu le soumette. C'était un violent, c'était un mesquin, il pensait qu'à lui. Il cherchait son intérêt, il n'avait pas vu clair sur toutes les choses. Mais je crois que ce premier jour de sa nouvelle vie, pourrait-on dire, ce premier jour, il va trouver le bonheur en rencontrant Rachel. On sait plus tard qu'il épousera Rachel, mais il épousera Léa aussi, et que derrière, il va y avoir beaucoup de complications. Mais j'aimerais vous dire qu'au bord de ce puits, Jacob a quand même trouvé son chemin parce qu'il a rencontré un Dieu qui était bon, bon pour lui. Il ne le méritait pas tant que ça, mais Dieu avait décidé d'user de bienveillance à son égard. Dieu avait dit « Je conduirai tes pas, je te ramènerai ici ». Sauf que pour s'en aller jusque là-bas et revenir, il faut des points d'eau, il faut aller puiser aux sources du salut. Et Jacob a été puisé à la bonne source, c'était le bon puits. Et enfin, un dernier exemple que l'on trouve dans les évangiles, vous connaissez l'histoire de la Samaritaine, certainement. L'histoire de la Samaritaine, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » La Samaritaine, pour résumer, on pourrait dire qu'elle a trouvé la vraie vie. Ouais, elle a trouvé la vraie vie quand elle a rencontré Jésus. Si vous ne connaissez pas bien l'histoire, je vous rappellerai que Jésus, fatigué, va s'arrêter au bord d'un puits, le puits de Sichar, le puits de Jacob, va s'arrêter à cet endroit-là. Et les disciples sont partis à la ville pour chercher à manger. Et puis une femme vient puiser de l'eau. C'est plein midi, plein cagnard. Elle vient puiser de l'eau. Jésus va entamer la discussion avec cette femme. C'est une rencontre inattendue. Devrais-je dire une rencontre inattendue que d'un côté, hein ? Parce que si Jésus s'est arrêté là, c'est parce qu'il savait qu'elle allait venir là. Mais si cette femme va au puits, c'est parce qu'elle est persuadée de ne rencontrer personne. Donc c'est inattendu pour elle, vraiment inattendu. Et la discussion s'engage. Et cette femme va rapidement expliquer qu'elle en a marre de venir puiser de l'eau. Elle en a marre d'être là, elle en a marre de réclamer à chaque fois quelque chose que le monde ne peut pas lui offrir. Elle a été mariée 5 fois, elle a un mari qui n'est pas son mari. Elle vit en concubinage, elle s'est satisfaite peut-être de cela. Toujours est-il qu'elle n'est pas heureuse. Et quand Jésus va spiritualiser la discussion, quand il va élever la discussion à quelque chose de plus profond, tu peux boire à toutes les sources de la terre, tu peux boire et aller puiser à tous les puits de la terre. Cette eau ne va pas te désaltérer au-dedans de toi. Cette eau ne va pas te désaltérer au fond de ton âme. Tu as besoin d'une autre eau. Tu as besoin d'une source qui pourrait jaillir jusque dans l'éternité. Tu as besoin d'une autre source d'eau. Cette femme comprend quand même. Elle n'est pas bête, elle comprend vite. Et elle dit à Jésus, donne-moi de cette eau. Et Jésus va lui donner de cette eau. Puisque quelques moments après, elle rentre au village en disant à tous ceux qu'elle va croiser, venez voir quelqu'un qui m'a raconté ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Messie, ne serait-ce pas le Christ. Cette femme va trouver la vraie vie parce qu'elle a rencontré un Dieu miséricordieux, parce qu'elle a rencontré Jésus qui pouvait tout changer. Alors voyez, des puits, il y en a tout un tas qui sont à notre disposition. Et là où je voulais en venir, et je conclurai avec cela, c'est un texte que l'on trouve encore dans la Genèse. On peut le lire ensemble, s'il vous plaît. Genèse, chapitre 26. Genèse, chapitre 26, l'histoire des puits, c'est l'histoire de la vie, l'eau, c'est la vie, et quelquefois, on a creusé des puits, et on les a perdus de vue, parce que le terrain a changé, les dunes se sont déplacées, les montagnes ont bougé, et on ne sait plus se repérer, on ne sait plus dire où était le puits. Puis d'autres fois, on ne retrouve pas les puits, parce que les puits ont été endommagés. Et là, précisément, il s'est passé quelque chose comme ça. Genèse, chapitre 26, verset 1er. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai à toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. » Verset 12. « Isaac sema dans le pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Et les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom d'Ézec, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, nous prospérerons dans le pays. Amen. Il peut toujours y avoir des temps de famine, et dans les temps de famine, il faut réagir. Et Isaac a réagi. puisque c'est la famine, il faut aller ailleurs. Et Dieu va l'avertir en disant « Ailleurs, d'accord, mais pas n'importe où. Ailleurs, d'accord, mais ne descends pas jusqu'en Égypte comme a fait ton père, ça s'est mal passé pour lui. » Donc il va s'arrêter dans le pays de Guérar, un endroit où Abraham avait stationné lui aussi. Et puis, il va y avoir une histoire assez trouble avec sa femme, d'ailleurs c'est récurrent. Son père avait fait la même chose, la faisant passer pour sa sœur, etc. Enfin bref, ce n'était pas très glorieux. Le fait est qu'à un moment donné, Dieu va le bénir, eu égard à son père, et il va lui permettre de récolter 100 fois plus. Évidemment, il va porter envie à tous ceux qui étaient autour. Mais quand il y a de la famine, Dieu n'est pas mort. Nous, on peut mourir, mais Dieu n'est jamais mort, même quand il y a de la famine. Et on s'aperçoit que les puits existent, sauf qu'ils sont peut-être remplis de poussière. Sauf qu'ils ont été comblés, et évidemment, on ne peut pas récupérer de l'eau. Alors, qu'est-ce que Isaac fera ? Rapidement, quand il a été chassé, demander d'aller un petit peu plus loin. Il n'y a plus d'installation, apparemment. Il faut refaire un petit peu tout. Mais il a eu une très bonne idée. Avant de creuser de nouveaux puits, il a déjà été déterré ou déblayé, dépoussiéré ceux qui étaient pleins de poussière. Quand je vous disais que là où Agar a trouvé la paix, là où Eliezer a eu sa réponse, là où Jacob a trouvé son chemin et où la Samaritaine a trouvé la vraie vie, sont des puits qui existent encore. Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu est fidèle, Dieu exauce la foi. Ça, ce sont des puits vers lesquels on peut aller puiser. Avant d'essayer d'aller en creuser d'autres pour trouver d'autres choses. Si déjà vous allez dépoussiérer ces puits-là, vous allez certainement être désaltéré abondamment. Vous puiserez avec joie aux sources du salut. Voilà ce que Dieu promet. Et puis s'il le fallait, et s'il fallait creuser de nouveaux puits, pourquoi pas ? Eh bien, allez-y. Et si certains vous cherchez querelle pour ces puits-là, ben, ce n'est pas grave. Laissez-leur ces puits-là. On a laissé Ézec, on a laissé Sitna. Et finalement, on a trouvé Rehoboth. Quelquefois, on a fait du bien et on n'a pas été récompensé, entre guillemets, en retour. Mais ce n'est pas grave. Tout ce que vous pouvez faire, faites-le avec joie. Faites-le de bon cœur. Autant que cela soit possible, soyez en paix avec tous les hommes. Un peu plus loin, l'apôtre Paul dira dans une autre de ses lettres, « Si vous devez être accusé pour pratiquer votre foi, ce n'est pas grave. Au moins que l'on vous calomnie pour... le bien que vous aurez fait plutôt que pour le mal que vous auriez fait. Quelquefois, on réagirait violemment au mal que l'on nous fait, alors que Dieu nous demande de réagir par la foi, avec bonté. Mais vous savez, à un moment donné, quand on a pressé le citron, il n'y a plus rien. Quand on nous a pressé comme ça, il n'y a plus rien. Ben, il faut aller puiser de l'eau pour qu'on reprenne un petit peu vie et que si d'autres voulaient nous presser encore, il y a quelque chose qui en sorte, et quelque chose de bénissant, et quelque chose de bon. Si vous allez puiser de l'eau, si nous allons puiser de l'eau avec joie, c'est parce que nous savons que Dieu y est à ces rendez-vous-là. Alors tous les matins, cherchez des puits vers lesquels il faut aller s'abreuver et trouvez-les et soyez bénis. Et le soir, en vous couchant, dites-vous et posez-vous la question, alors comment a été cette journée ? Elle a été bonne ou elle a été moyenne ? De 1 à 10, expliquez votre bonheur, pas votre douleur, mais votre bonheur. Alors il est comment votre bonheur ? Et plaise à Dieu que vous puissiez vous réjouir encore en réalisant tout ce que Dieu a fait. Il y a des points de rendez-vous que Dieu a placés, même dans les temps de famine. Dieu est toujours au rendez-vous, il est fidèle. Alors que Dieu nous aide à reprendre courage, bien-aimés, si nécessaire. Que Dieu nous aide à être abreuvés, si nécessaire. Que Dieu nous aide à prendre la pelle, la pioche, s'il le faut, pour aller déblayer ces puits qui ont été comblés par notre ennemi, le diable, qui a jeté de l'ivraie dans notre champ. Mais le bon grain existe et la moisson sera belle. Et la moisson déjà certainement est blanche. Et nous voulons croire que c'est jusqu'au centuple que l'on pourra être béni. Amen. On se lève ensemble et on invoque son nom. Seigneur, nous voulons te remercier et nous voulons te rendre grâce parce que tu as toujours été fidèle pour ceux qui te cherchaient. Tu as toujours béni ceux qui avaient besoin de toi. Merci d'avoir accompagné, d'avoir béni, d'avoir fortifié ainsi ceux qui criaient à toi, ceux qui avaient besoin de ta grâce. Voilà quelques exemples qui nous ont été laissés et qui nous rappellent que tu es fidèle. Merci pour ta fidélité. Merci de nous permettre d'aller puiser à nouveau. Même si ça fait bien longtemps que nous n'avons pas puisé aux sources du salut, nous voulons le faire. Relire encore ce beau chapitre 12 d'Ésaïe. Comprendre qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu feras encore pour nous. nous réjouir en ta présence. Nous repartons de ce lieu réconforté parce que ta parole est bénissante. Nous l'espérons et nous le croyons. Merci de ta faveur. Tu béniras la réunion de tout à l'heure. Tu béniras l'évangile prêché et glorifié, encore annoncé avec force. Étends ta main et manifeste-toi, nous t'en prions. Amen.